VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Ravi de vous retrouver à l'écoute de VOA Afrique dans 10 minutes, ça et le plus, mais pour l'heure, un bulletin d'information. Au Nigeria, l'armée affirme avoir libéré Madagali, la dernière zone occupée par Boko Haram dans l'état de l'Adamawa. Dans un entretien mercredi avec la VOA, le président nigérian Goodluck Jonathan prédisait que le groupe extrémiste perdrait ses derniers bastions dans les états de l'Adamawa et de Yobe d'ici la semaine prochaine. Une offensive multinationale a chassé les islamistes armés de plusieurs villes qui les occupaient dans le nord du Nigeria. Les forces du Tchad, du Niger et du Cameroun ont joué un rôle de premier plan dans les combats. Nigeria, toujours, des mercenaires interviennent dans le pays dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. C'est une exclusivité VOA. Jean-Roger Bion me rejoint en direct. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Jacques.
Alors Jean-Roger, des responsables de l'armée nigériane ont effectivement confirmé hier sous anonymat à la Voix de l'Amérique que des soldats étrangers s'engagent déjà au Nigeria dans des combats à la fois aériens et au sol contre le groupe extrémiste.
Alors Jacques, c'est bien pas plus tard que mercredi, dans un entretien exclusif avec la Voix de l'Amérique, on dit que ce ne sont plus des rumeurs des mercenaires étrangers originaires d'Afrique du Sud et d'anciennes républiques soviétiques comme l'Ukraine sur le territoire nigérien pour appuyer l'offensive contre Boko Haram. Un soldat nigérien a même vu quelques-uns des étrangers à bord d'avions de combat décollant de l'aéroport de Maiduguri. Un peu plus loin, près de la ville de Bama, mercenaires et troupes nigériennes planifiaient ensemble cette semaine une opération commune contre le groupe armé. Et confidence d'un caporal à la VOA, mais par manque de communication, un officier nigérien a fini par ouvrir le feu sur deux véhicules blindés conduits par ceux que le caporal appelle des soldats blancs pris pour des hommes de Boko Haram. L'un des conducteurs a été tué et l'offensive a finalement été annulée.
Oui, et présence de mercenaires qui, Jean-Roger, prend à contre-pied les déclarations officielles du gouvernement nigérian.
Ah oui, pas plus tard que mercredi, je le disais dans un entretien exclusif à VOA, le président Goodluck Jonathan avait lui-même déclaré que ses militaires étrangers étaient des instructeurs et techniciens. Il conseille l'armée nigériane, surtout en matière d'utilisation du matériel militaire provenant d'Afrique du Sud, de la Russie et de l'Ukraine. Et quoi qu'il en soit, la nouvelle a fait grincer des dents au Nigeria, un pays qui se rend aux urnes à la fin de ce mois. La campagne électorale est rude. Le candidat Jonathan est au coude à coude avec son principal rival, Mohamed Bouhari. Le gouvernement a déjà été critiqué après les incursions des armées du Niger et du Tchad sur le territoire nigérian pour combattre Boko Haram. Et maintenant, la présence de soldats sud-africains ou encore d'Europe orientale, c'est-à-dire hors de la région, n'arrange pas du tout les choses. Les détracteurs du chef de l'État nigérian n'hésitent pas encore une fois à remettre en question l'efficacité de son régime dans la lutte contre le groupe islamiste.
Merci bien Jean-Roger. Attentat à Bamako, un suspect tué par l'armée malienne. Des sources militaires indiquent qu'un élément du commando auteur de l'attentat de la Terrasse a été abattu ce matin par les forces maliennes. Plus de précisions avec Kassim Traoré.
Dans un premier temps, les militaires ont été obligés de sécuriser les voisins en les faisant évacuer les lieux. Un immeuble à Sokorodi, en commune sud du district de Bamako, comportant plusieurs appartements, avait été visé. Le suspect n'a pas voulu obtempérer, malgré qu'il soit isolé. Les militaires précisent qu'il a piégé sa porte avec des grenades avant de faire des tirs en direction des éléments de l'unité spéciale. C'est ainsi que de 20h à 1h du matin, il n'a pas voulu se rendre et continuer de faire des tirs sur les militaires venus l'arrêter. Finalement, la riposte de ces derniers lui a été fatale, car il a perdu la vie. Les éléments antiterroristes et ceux de l'unité spéciale sont rentrés dans sa chambre. Ils ont retrouvé sa carte d'identité. Le suspect se nomme Mohamed Taniru Sissé, né vers 1993 à Moudakam, dans le cercle de Bourem. Les militaires ont retrouvé chez lui 800 cartouches de munitions, des grenades, un AK-47. Selon les militaires maliens, les armes retrouvées chez lui correspondent à la série de celles retrouvées dans la cache d'armes découverte à Samanko, dans la périphérie de la capitale malienne. Le corps du jeune Cissé est à la morgue de l'hôpital Gabriel Touré, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Dans l'actualité encore, au Rwanda, un tribunal a infligé des peines allant de 10 ans de prison à la réclusion à perpétuité à 11 personnes accusées d'avoir voulu renverser le gouvernement du président Paul Kagame. Camille Grosdidier.
Selon la justice rwandaise, ces personnes opéraient dans le district de Musanze, dans le nord du pays. Elles étaient accusées de complicité avec les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon Kigali, cette milice comprend des Hutus qui auraient participé au génocide de 1994 au Rwanda. Six personnes ont écopé d'une peine de prison à vie, dont Tsengiyumva Jotan, ancien FDLR, et deux femmes accusées de trafic d'armes. Cinq autres ont reçu des peines de 10 ans de réclusion et 3 ont été acquittées. Jotan aurait reconnu avoir cherché à renverser le gouvernement, même s'il n'a pas mené à bien son projet. Les détenus devaient également répondre d'autres chefs d'accusation, dont l'introduction illégale d'armes dans le pays, le meurtre, les coups et blessures délibérés et le lancement de grenades explosives. Toujours à Musanze, 16 autres personnes sont actuellement jugées pour crimes contre la sécurité de l'État. Le verdict est attendu d'ici à la fin du mois de mars.
Un agent de santé américain infecté par Ebola en Sierra Leone a été admis dans un hôpital de l'État du Maryland pour un traitement. Le patient est arrivé ce vendredi matin après avoir été transporté sur un vol dans l'isolement. Il va rester dans un centre de traitement en milieu fermé. Dans les maladies contagieuses les plus dangereuses, les autorités médicales n'ont publié aucune information sur l'identité du patient qui est le 11e à être traité pour Ebola aux États-Unis. Le secrétaire d'État américain John Kerry est en Égypte pour un sommet économique visant à attirer davantage d'investissements étrangers dans le pays. La conférence de 3 jours se tient sous haute sécurité à Sharm el-Sheikh dans le Sinaï, foyer de l'insurrection qui a contribué à paralyser l'économie égyptienne. Des militants basés au Sinaï qui se réclament du groupe État islamique ont mené une série d'attaques depuis la destitution de Mohamed Morsi en 2013. Des centaines de chefs d'entreprise et d'officiels gouvernementaux participent à la conférence internationale, y compris les hauts diplomates des États-Unis et de l'Union européenne et des représentants de grandes multinationales dont British Petroleum. Ajoutons que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït ont chacun annoncé aujourd'hui 4 milliards de dollars en aide ou en investissement pour l'Égypte. C'est ce que nous apprend l'AFP.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Également dans l'actualité, les forces de sécurité irakiennes continuent leur offensive pour reprendre Tikrit. C'est la ville où les combattants du groupe auraient même commencé à perdre du terrain. L'ONG américaine Human Rights Watch déplore que les restrictions de voyage imposées par le gouvernement ukrainien retardent sérieusement la livraison de l'aide médicale dans les zones contrôlées par les rebelles dans l'est du pays. Et puis, la ville américaine de Ferguson a de nouveau vécu une nuit sous tension après des tirs contre des policiers vivement condamnés par le président Barack Obama qui a dénoncé une violence inacceptable commise par des criminels. Nicolas Pinault.
La violence contre la police est inacceptable, a réagi Barack Obama sur le compte Twitter de la Maison-Blanche. Le chemin de la justice est un de ceux sur lesquels nous devons marcher tous ensemble, a-t-il ajouté. S'exprimant plus tard sur la chaîne de télévision ABC, le président américain a réitéré que ces tirs étaient inexcusables, rappelant qu'ils étaient condamnés par ceux qui ont manifesté pacifiquement contre les mauvais traitements de la police de Ferguson. « Ce sont des criminels, il faut les arrêter », a répété Barack Obama. Quant au ministre de la Justice, Eric Holder, il a pour sa part condamné une attaque lâche et répugnante en évoquant un voyou cherchant à semer la discorde. Dans la soirée, une centaine de jeunes manifestants s'étaient à nouveau rassemblés devant le poste de police de Ferguson, scandant des slogans et bloquant par moments la rue principale. Jeudi, la municipalité de Ferguson avait annoncé que la police du comté de Saint-Louis et la police des routes du Missouri prenaient le commandement de la sécurité dans la ville. Tout avait été déclenché cette semaine par la publication par le ministère américain de la Justice d'un rapport accusateur montrant l'inégalité de traitement réservée par la police aux Noirs par rapport aux Blancs à Ferguson. Une série de 5 démissions en cascade plus 1 licenciement avait suivi, dont celle du chef de la police de Ferguson.
Et on reparle de Julian Assange. La justice suédoise veut finalement interroger le fondateur de Wikileaks à Londres au sujet des allégations d'agression sexuelle qui pèsent contre lui. Et voilà pour ce point actu. Restez branchés sur la VOA dans 50 minutes. Le Monde aujourd'hui revient sur nos ondes. Bonne écoute.
soyez au